Alors, Lionel Ringot, vous êtes professeur à l'Université de Lille et vous êtes également chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Alors, Eureka, vous le traduisez CES, comme pour Cyclope, c'est... Oui,
ça s'appelle CES maintenant, Centre d'économie de la Sorbonne.
Bon, alors, d'autres aussi.
Voilà.
Et vous êtes conseiller scientifique du CA. Donc, est-ce que vous pouvez faire la lumière sur la tendance à long terme de ces prix volatiles avec la tension entre une offre, une demande qui, on l'a dit, va rester dynamique, en particulier à cause de la Chine, et puis une offre dont certains disent qu'elle va plafonner parce que d'abord il y a un nationalisme des pays producteurs qui préfèrent au fond garder leur pétrole dans le sol, et puis parce que les investissements sont de plus en plus coûteux, surtout en période de crise financière, et donc vous allez le dire, il semble y avoir un consensus des experts pour dire qu'on ne dépassera jamais 100 millions de barils par jour. Par conséquent, le prix, la résultante de ces deux forces serait élevé, mais en plus, comme Philippe Chalmin l'a rappelé, il y a le facteur spéculation qui joue et qui certainement joue un rôle dans cet emballement qu'on a vu, le pic à près de 150 dollars le baril. Est-ce qu'il y a une bulle pétrolière? Est-ce qu'il peut y en avoir?
Très bien, ben merci. Donc, lourde tâche, toujours difficile d'intervenir après Philippe, surtout quand on est économiste et que notre rôle ici consiste à donner les déterminants du prix du pétrole, et vous mettez la pression parce que j'ai l'impression que vous attendez que je vous donne un chiffre, des chiffres concrets. C'est pas vraiment ça que je vais faire. Hein. Je vais vous donner les grandes tendances et vous dire pourquoi est-ce qu'on anticipe plutôt effectivement un prix du pétrole qui sera élevé, mais je ne sais pas vous donner de chiffres précis, à moyen long terme. Et qui sera volatile pour des raisons d'ailleurs qui ne se limitent pas à la seule spéculation. Dans les déterminants, dans les fondamentaux, on trouve aussi les traces de cette volatilité. Alors, bon, prévoir le prix du pétrole, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'aventurer à donner un chiffre ici, j'ai retrouvé un petit graphique qui date, alors c'est pas très visible, mais c'est ce qu'il faut retenir simplement. Vous avez le prix du baril, ça s'est terminé dans les années, au milieu des années 2000, hein, il n'a pas été actualisé, parce que le but c'est simplement de vous montrer. En 97, hein, chaque point commence en 97, un peu pour les différents, c'était les prévisions qui avaient été faites d'évolution du prix du pétrole. Donc ce graphique, il vous dit tout simplement qu'on s'est toujours trompé, même à court terme, même à moyen terme, sur le prix du pétrole. Donc la courbe la plus en haut, c'était les prévisions qui avaient été faites en 81, mais je ne l'ai fait commencer qu'en 97, hein, et par la suite, donc vous voyez bien qu'en 81, on estimait un prix du pétrole en 97 à 100 dollars, ce qui n'était pas du tout le cas, etc. etc. Donc, juste pour vous dire qu'on est bien incapable, à court moyen terme, de déterminer précisément l'évolution de ce prix du pétrole. Donc je ne vais pas m'aventurer à mettre une nouvelle courbe dans ce graphique, en sachant que ce sont des prévisions officielles faites par des institutions avec des économistes. Alors, moi, ce que j'ai regardé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le pétrole sera cher à terme. Et je vais essayer de préciser pourquoi, qu'est-ce qui nous autorise à faire cette prédiction, quels sont les déterminants, et qu'il sera volatile. À nouveau, j'insisterai sur les différents déterminants qui expliquent cette volatilité. Alors, le prix du pétrole, ça a été rappelé, hein, il ne faut pas se tromper, c'est un bien, il n'est pas forcément, il n'est pas comme les autres, il y a des particularités, mais son prix, c'est un prix mondial, on a la confrontation d'une offre et d'une demande mondiale. On n'a qu'un prix, ce n'est pas le cas de beaucoup de d'autres produits, hein, toujours des prix locaux. Ici, on a un prix mondial. Et vouloir comprendre l'évolution de ce prix de ce pétrole, c'est simplement analyser les déterminants de cette offre et de cette demande. Hein. C'est ce que je vais essayer de faire dans les 10 minutes qui vont. Alors, commençons par l'offre. Finalement, bon, quand on fait un cours d'économie en première année, on dit toujours, voilà, du côté de l'offre, le prix doit être égal au coût marginal. C'est ce que j'écris dans la première ligne ici. Effectivement, on va avoir le prix qui va être égal au coût marginal d'extraction. Alors, ici, quand j'écris coût marginal d'extraction, ça va être donc le prix du baril. Mais si je prends le prix à la pompe et que je regarde les autres déterminants de la production et autres qui vont apparaître, il y aura bien sûr le prix du transport. enfin, et le prix du raffinage, hein, les caractéristiques de du raffinage. Là, je limite au prix du baril. Donc, les déterminants de la production, je vais détailler chacun de ces points-là par la suite. Il y a, comme l'a rappelé Philippe Germain précédemment, eh bien, effectivement, il y a ce qu'on appelle une rente non concurrentielle, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un marché concurrentiel. L'OPEP a pu diriger le prix il y a un certain nombre d'années. Tu as rappelé que dans les des années 2000, l'OPEP aussi, par son action, a pu maintenir le prix du pétrole dans un couloir entre 20 et 30 $. C'est le cas, on dira le mot, parce qu'il y a d'autres déterminants, effectivement. Mais donc, ben ce pouvoir de marché entraîne une rente non concurrentielle. Il y a la rente de rareté. Bon, le pétrole, certes, sur des millions d'années, c'est une ressource renouvelable, mais c'est sur des millions et des millions d'années, donc au temps humain, on considérera que c'est une ressource épuisable. Et donc, eh bien, comme toute ressource épuisable, il y a une rente de rareté qui lui est associée et qui est intégrée dans le prix. Il y a la fiscalité. Alors là, j'arrive sur le prix à la pompe. Hein. Donc, et je dirais quelques mots sur le poids que représente la fiscalité, même si je pense que c'est une connaissance commune maintenant. Et puis, il y a un nouveau déterminant, c'est le prix du carbone. Le prix du carbone, alors, que j'aurais pu mettre dans la fiscalité, sauf que ça peut prendre des formes un peu diverses. Ça ne passe pas nécessairement que par la fiscalité. Quand on met des normes et autres, ça peut... Alors, c'est vraiment sur le prix du pétrole, hein, bien sûr, mais le prix du carbone peut prendre d'autres formes. Alors, j'en prends ces différents déterminants du côté offre. Le coût marginal d'extraction, eh bien, il est très différent, en réalité, d'une zone productrice à une autre. Ce petit graphique, il vous dit, grosso modo, quel est le coût d'extraction pour un baril dans les différentes zones, hein, et où ça coûte le moins cher, c'est en Arabie Saoudite. Donc, pour extraire un baril de pétrole, ça, il faut environ $20. On dit même que ça peut être bien en dessous, hein, on entend le chiffre de $5. C'est toujours très difficile d'ailleurs d'avoir de l'information sur les coûts d'extraction du pétrole. Et puis l'autre extrême, ben, c'est le pétrole qui est produit par le Canada à partir des schistes bitumeux, hein, les sables bitumeux, qui est beaucoup plus coûteux puisque pour extraire un baril, c'est environ $80 le coût. Alors non seulement il est plus coûteux et puis surtout il est beaucoup plus polluant. Donc, on voit bien que les coûts d'extraction sont importants, ils sont très divers, ce qui montre aussi qu'il y a une grande diversité qui va apparaître, parce que le prix est unique, donc l'Arabie Saoudite va récupérer une marge très très importante par rapport à d'autres pays qui ont des coûts de production plus élevés. Donc, mais en même temps, on a un épuisement progressif des champs au cours relativement faible, ce n'est pas encore le cas, donc petit à petit on arrive sur des champs qui sont de plus en plus coûteux, ou alors ça coûte plus cher d'aller chercher le pétrole plus loin. Donc avec l'épuisement progressif du pétrole, ben, ce coût n'est pas constant et il va croître. On passe de champ à d'autres, et même sur un champ donné, ça peut être plus coûteux. Alors volatile également, parce que tu l'as dit encore mieux que moi, hein, je vais le dire, mais je vais le répéter quand même. Et là, on voit apparaître un élément de volatilité qui n'est pas lié à la spéculation. C'est que dans une phase de prix faible, ce que tu avais évoqué au début des années 2000, ben les recettes sont relativement faibles, hein, pour les pays, je parle de pays, hein, producteurs, on parle de nationalistes étrangers. Les investissements sont relativement faibles, c'est très bon. Du coup, la production est plus coûteuse et se limite. Hein, je ne dis pas qu'elle se réduit, mais se limite. Donc, on va avoir une hausse du prix, etc., une hausse des recettes, etc. Donc, on a un cycle, hein, en quelque sorte endogène, sans qu'il y ait de spéculation, qui est lié justement au problème des coûts d'extraction qui dépendent beaucoup des investissements qui seront réalisés. Et c'est une des inquiétudes actuelles, hein, c'est qu'avec la crise, hein, et la diminution de la demande de pétrole, beaucoup de pays ont retardé, ont abandonné certains programmes d'investissement qui fait qu'on a des doutes sur les productions futures. Alors, la rente de rareté. Donc deuxième élément, la rente de rareté, ben c'est une ressource qui est épuisable. On va buter un bon à l'autre sur la finitude, hein, du pétrole. Mais comme le bien le rappelé Antoine Dautume, de toute façon, on arrêtera l'extraction du pétrole avant qu'on ait épuisé la dernière route. Pour des raisons économiques, hein, je reviendrai juste après. Alors, cette rente de rareté, elle a été, pour les économistes, hein, on la retrouve dans ce qu'on appelle la règle de Hotling. Et que nous dit cette règle de Hotling, hein, liée à la rareté de la ressource, Je prends le cas plus simple. Hein. Elle nous dit simplement que le prix du pétrole, il est amené à croître, je vous ai fait par ailleurs, hein, mais il est amené à croître au même taux que le taux d'intérêt. Je dis bien, le taux de croissance du prix du pétrole doit être égal au taux d'intérêt. Donc voilà pourquoi je peux déjà vous dire qu'à terme, le pétrole sera cher. Son prix, si on fait une gestion optimale de cette ressource, va croître au taux d'intérêt. Alors, taux d'intérêt du marché. Hein, taux d'intérêt du marché, parce que c'est un arbitrage que je vais faire. Entre, ça vous donne le prix du stock en terre. C'est-à-dire, moi, je suis producteur. Si j'extrais une unité supplémentaire, je vais la vendre au prix du marché. Et si je place cet argent-là, je récupérerai l'équivalent du taux d'intérêt en plus. Si je décide de la laisser en terre, et que je l'extrais l'année d'après, j'en tirerai le prix de marché. S'il a augmenté exactement du montant d'intérêt, je suis indifférent entre laisser cette unité en terre ou la vendre tout de suite sur le marché. Donc ça dira que moi je vais en tant que producteur réagir, et donc je vais gérer mon stock de manière justement à ce que le prix croisse exactement de la même manière que le taux d'intérêt. Alors, donc cher à terme, là, oui, le prix d'après la théorie économique, d'après la théorie économique, le prix doit prendre le taux d'intérêt. Alors on voit bien que cette théorie n'est pas forcément bien vérifiée sur les années passées, mais pour diverses raisons hein, que je ne veux pas évoquer ici, c'est une des tendances de long terme. Alors le shock price, c'est justement aussi pour dire, mais attention, au fur et à mesure que le prix du pétrole va augmenter, y a d'autres ressources, d'autres énergies alternatives vont devenir économiquement utiles. Ou à l'inverse, on va pouvoir apparaître des innovations de produits de remplacement. Et donc, quand on arrive à un certain niveau du prix du baril de pétrole, il y a beaucoup de composantes de la demande qui vont disparaître parce qu'elles vont trouver d'autres substituts au pétrole. Donc, ça va être très difficile à définir ce choc price, ce moment où la demande va s'arrêter. Déjà, ce n'est pas une demande agrégée, c'est une demande qui va dépendre des secteurs, qui ont des capacités de substitution au pétrole différentes et autres. Donc ça complexifie en quelque sorte l'analyse. Alors, la rente de monopole, hein, j'exagère, je force le trait, on n'a pas un monopole en face de nous. Je mets le mot cartel, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore on puisse dire qu'on a un cartel. On a quelque chose qui ressemble plus à effectivement un oligopole assez large, avec une frange concurrentielle un petit peu autour, hein, les autres pays que l'OPEP. Donc je vais rappeler deux, trois éléments sur l'OPEP en tant que tel. Mais du côté de l'offre, il y a aussi le contexte géopolitique. Donc les principaux pays exportateurs de pétrole, c'est l'OPEP, 11 pays, la Russie, le Mexique, la Malaisie, la Norvège. Et ce qui caractérise ces trois pays, à l'exception des deux derniers, la Malaisie et la Norvège, c'est ce que Félix Chalmin a évoqué dans son introduction, le nationalisme, ce qu'on appelle le nationalisme pétrolier, qui d'ailleurs peut s'étendre à d'autres formes de ressources, hein, le nationalisme des ressources, dans lequel le pétrole, on le retrouve, à savoir que les pays souhaitent récupérer cette ressource qui est une source de recettes très, très, très importante. Alors, l'exemple auquel on pense naturellement, c'est le Venezuela, hein, et Chavez, qui a voulu renationaliser, hein, le pétrole. Et alors pourquoi j'en parle? Parce que on a constaté qu'effectivement ça passait aussi par des baisses d'investissement par la suite qui vont avoir un impact sur la production et donc sur le prix futur du pétrole. Deuxième élément, tu as parlé aussi la malédiction, donc malédiction du pétrole, comme ils sont liés d'ailleurs, hein, c'est lié, c'est qu'effectivement ça, le pétrole apporte beaucoup de recettes au pays. Et ces recettes ne sont pas toujours utilisées forcément à plus efficient et empêchent le développement d'autres secteurs. Et ça va aussi avoir un impact. Alors, on a aussi un fort potentiel d'instabilité sur la plupart de ces pays. C'est vrai que je rappelle dans les pays comme l'OPEP, le Irak et d'autres pays, où on sait que tout ça affecte l'offre. Alors, on le voit particulièrement sur ce graphique. On voit clairement, hein, donc le graphique qui va de 99 ici à 2009, on voit clairement, c'est le prix du baril, on voit clairement là entre 99 et début, fin 2003, cette bande dans laquelle a circulé le prix du baril entre 22 et 28 dollars. Et c'était le résultat d'une action volontariste de l'OPEP, hein, puis à travers sa production, sa rejet, pour qu'effectivement, on ne descende pas en dessous. Donc je ne développe pas pour les gens que tu as évoqués, puisque en dessous de 20 dollars, ça pose des problèmes pour la plupart des pays producteurs, et que ça n'aille pas au-delà de 30 dollars, parce que les pays développés avaient fait comprendre aux pays producteurs que ça serait insurmontable et qu'il fallait une bonne entente entre les deux côtés, de l'offre et de la demande. Et puis, il se passe des chocs en 2003. Donc, le Venezuela, Chavez, donc ça joue sur la production. Hein, il y a des grèves à ce moment-là dans le secteur pétrolier. C'est l'Irak, l'invasion d'Irak. Le Nigeria, la guerre civile, hein, qui affecte aussi le pétrole, enfin, la production de ce pays. Et donc, vous avez une baisse de la production. Mais baisse de la production qui par cette action volontariste de l'OPEP, est compensée par un accroissement de la production de l'Arabie Saoudite et d'autres pays de l'OPEP. Donc on reste à peu près, mais on voit qu'on commence à sortir un petit peu de cette bande. Et puis après, ben je ne vais pas refaire l'histoire, très bien explosé. On a ce choc hein, pétrolier, on arrive à, 100, à plus de 140 dollars. Bien. Alors, donc, oui, pendant un temps, l'OPEP a pu contrôler. Comment ? On va y arriver. Alors la fiscalité, deux mots. J'ai marqué fiscalité et IPP. Attention, hein, dans ce tableau, il y a autre chose qu'à IPP, il y a TVA, il y a d'autres éléments de la fiscalité. Le poids des taxes dans le prix de vente, ça c'est à la pompe, bien sûr. Donc ça montre aussi qu'il n'y a pas des disparités très très importantes entre les pays européens. Mais voilà, au premier semestre 2008, 61% du prix à la pompe était composé de taxes. Ce que la plupart des gens savent en général. Mais ce n'est pas neutre parce que c'est le graphique suivant. Vous voyez bien que du coup, puisqu'une part imposante du prix à la pompe est composée de taxes, qui fort heureusement ne sont pas pour la plupart ad valorem, c'est-à-dire ne portent pas sur le prix, mais sont sur les unités. Donc même quand le prix du baril augmente, ces taxes-là vont rester constantes. Donc c'est un amortisseur, effectivement, un amortisseur par rapport au prix du baril. Et vous avez également l'effet taux de change qu'a évoqué Philippe Chalmin, qui fait que la courbe en bleu, ben, c'est l'évolution à basse 100-2000, l'évolution du prix du baril. Et vous voyez bien que je vais prendre le prix du Super 95, hein, qui est en vert. Vous voyez bien qu'on n'a pas du tout hein, les mêmes amplitudes d'augmentation, fort heureusement d'ailleurs, parce que vous avez l'effet de euro hein, qui s'est renchéri par rapport au dollar, donc a réduit le coût du baril, et puis l'effet des taxes qui sont un amortisseur. Alors attention, quand je dis amortisseur, c'est pas l'amortisseur au sens des pieds flottants, hein, faut pas se méprendre sur mes propos. Les taxes ne bougent pas quand le prix du baril augmente. Mais comme il compose une part très importante du prix du baril, le prix du baril, c'est une part beaucoup plus faible, et donc ça ne se répercute pas automatiquement, enfin, de même amplitude dans le prix à la. Le prix du carbone, et j'arrive à la spéculation. Alors, le prix du carbone, ben, ça, on entend beaucoup parler aujourd'hui, hein, effectivement. Maintenant, dans le prix à la pompe, va apparaître une autre composante du côté de l'offre, c'est la fiscalité ou les marchés droits pollués, ça dépend de la forme que ça va prendre, qui vont faire internaliser, ce que les économistes appellent faire internaliser aux consommateurs le prix du réchauffement climatique. Alors si je prends bon, l'exemple le plus connu, c'est effectivement, enfin le plus connu, en France, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone ou la contribution climat-énergie, hein, c'est la même chose, qui devrait être mise en place au 1er janvier de l'année prochaine. C'est tout simplement rancher. C'est une taxe qu'on appelle incitative. Hein. Elle donne un signal au consommateur en disant attention, quand vous consommez du pétrole, il y a tout ce que j'ai dit avant, hein, ça vous paye. Mais il y a aussi un autre phénomène que vous ne preniez pas en compte, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui ont un coût pour la société. Et donc on vous donne le bon signal du prix que ça représente. Et donc c'est une taxe incitative. Elle cherche à vous faire réduire votre consommation de pétrole pour atteindre un objectif. Alors l'objectif, il est mondial, il n'est pas national. L'objectif, c'est Copenhague. Hein. Alors, on ne sait pas du tout ce que va donner Copenhague, mais grosso modo, il y a un accord parmi... c'est pas un problème d'économiste, là. Il y a un accord parmi les climatologues en disant qu'il ne faut pas dépasser certains seuils de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je rentre pas en détail, c'est 450 ppm, etc. habituel. Et pour faire ça, ben, il faut modifier sensiblement, fortement, mais je crois que ça va être plus longuement développé, donc je vais aller tout à fait vite, hein, modifier le comportement des agents de manière à ce qu'ils consomment moins d'énergie qui sont à l'origine de gaz à effet de serre. Alors, en France, je vais dire deux mots, parce qu'il y a d'ailleurs un petit problème quand même, puisqu'on va donc mettre en place cette taxe qui va toucher essentiellement les ménages, le secteur des transports. Mais on a aussi un autre instrument, qui est le système de quotas d'émissions négociables, qui est européen, auquel est soumise la France, et qui concerne essentiellement le secteur industriel, et énergétique, et qui, lui, n'est pas soumis à une taxe. Ce sont des quotas qui se négocient entre ses partenaires. Et donc, on a un prix marché, et on va avoir la taxe. Or, pour les économistes, généralement, si on veut donner, ça doit être le même signal, hein, que ça soit une tonne consommée par EDF pour sa centrale thermique, ou que ça soit une tonne consommée par les ménages, l'externalité négative est exactement la même. Donc, on doit envoyer le même signal. Et donc, une des inquiétudes pour les économistes aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va réussir à bien concilier cette taxe, qu'on va changer tous les jours quand même, hein, alors qu'on a un prix marché qui peut fluctuer pour des raisons autres que plus spéculatives ou autres. Alors, dernier mot, sur ce prix du carbone, et ça on revient ici, on peut voir apparaître un jeu stratégique entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Parce que, personne de l'OPEP, j'espère, dans la salle, mais je crois qu'ils ne sont pas... Ils sont suffisamment fins pour voir ce qu'ils ont intérêt à faire. Imaginons qu'on a un accord à Copenhague et que la plupart des pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sur des objectifs chiffrés. On a un profil, hein, d'efforts à réaliser. On peut voir très vite quelle augmentation, quel niveau de taxe il faudrait mettre en place. Et donc, à quoi ça correspond en termes d'augmentation du prix du pétrole en particulier. Il n'y a pas que ça. À l'origine des gaz à effet de serre, mais en particulier le pétrole, eh bien, vous voyez bien que si les pays producteurs qui auraient un pouvoir de marché, donc qui pourraient fortement influencer le prix par ce pouvoir de marché, bah, décidaient d'eux-mêmes d'augmenter le prix de ce montant-là, on n'aurait plus qu'une incitation du côté des autres pays de mettre en place cette taxe, parce que le seul objectif, c'est de réduire la consommation. Donc si ça vient de la hausse du prix du pétrole, on a atteint l'objectif, on n'a pas atteint. Donc bah, il y aura un petit jeu stratégique. Alors, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'on n'est pas dans cette situation, ils ont un pouvoir de marché très très fort, mais il ne faut pas négliger, je pense, à terme, ce problème. Évolution de la demande, j'en aurais terminé. Alors, je vais très très vite, parce que ça aussi, c'est très difficile à déterminer. Donc, c'est clair que ce qui a été à l'origine, hein, un des déterminants, ça a été la montée en puissance des pays émergents dans la demande de pétrole. Et dans le rapport de l'IAE, alors attention, le rapport de l'IAE, le dernier, il vient de sortir, la conférence de presse a eu lieu au début de cette semaine, hein, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais celui de l'année dernière, on estimait à un petit peu moins de 50% dans la hausse de la demande mondiale, la contribution de simplement de la Chine. Hein. Ces deux pays-là vont expliquer à eux seuls entre 40 et 50% de l'augmentation de la demande de pétrole. Donc c'est vrai que les États-Unis ont basculé de plus en plus vers la Chine comme élément. Alors, la demande, ça va dépendre aussi de l'élasticité prix, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que je crois que François Mazan va nous donner des exemples là, sur en France, comment la demande réagit à l'évolution du prix. Ça dépendra aussi des substitutions qui vont s'opérer, des découvertes que l'on va faire. On le voit bien dans le secteur automobile aujourd'hui, hein, où des efforts importants sont faits pour basculer vers des technologies moins polluantes. Alors il faut faire attention aussi à ce niveau-là, je pense qu'on dit... Je donne un simple exemple, hein, en Chine, voilà, on va développer des voitures électriques en Chine, donc c'est fantastique, ça aura beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, sauf qu'on oublie de dire, oui, mais pour recharger les batteries, donc on va les brancher sur le courant, et en Chine, le courant, il est produit essentiellement, pour ne pas dire uniquement, à partir du charbon. Donc je ne suis pas certain, loin s'en faut, même que ça soit forcément bénéfique. Donc il faut, l'équipe générale, il faut bien regarder tous les éléments. Donc effectivement, si je regarde simplement les voitures, elles vont moins émettre de CO2, les voitures, mais c'est peut-être pas le cas au niveau du pays. Alors, bon, il y a de fortes incertitudes, hein, on voit bien la crise actuelle, on ne peut pas anticiper le moment où elle pourrait se déclencher et autres. Donc, spéculation, et je conclue, spéculation. Alors, bon, Philippe Chalmin a expliqué qu'effectivement, on pouvait avoir des comportements spéculatifs. Je ne vais pas développer. C'est vrai que pour les économistes, la question, c'est est-ce que cette... Est-ce qu'on a une bulle rationnelle? Est-ce que finalement ce pic là qu'on a eu, parce que bon, on a un petit peu du mal quand même d'expliquer uniquement les raisonnements que je vous ai donnés, est-ce qu'il est pallié à ce qu'on appelle une bulle rationnelle? Et là, on pourra avoir un débat, hein, entre les économistes, et on l'a, je crois, d'ailleurs, hein, donc on pourra revenir dessus. Antoine, je crois que tu n'es pas du tout convaincu, hein, par une bulle rationnelle au niveau du pétrole, tout simplement pour une raison simple que je partage, c'est que Mais il faut que ça soit une bulle rationnelle ne peut se porter que sur pied d'un réactif, et donc il faut des capacités de stockage. Or, les capacités de stockage de pétrole ne sont pas aussi importantes que ça pour mettre en place une bulle aussi élevée, même s'il y a des capacités de stockage. Hein. Donc, ça reste un débat, et qui pourrait peut-être donner lieu justement.
Donc, conclusion,
prix élevé. On va être sur la traîne, et je crois qu'Antoine aura un graphique à vous montrer, mais il va pas, je ne pense pas s'engager en plus sur des chiffres.
Et volatile.
Pour les différentes raisons que j'évoquais. La volatilité ne dépend pas nécessairement de la spéculation. La volatilité peut s'expliquer par.
Il serait à définir ce que c'est qu'une bulle rationnelle. C'est tout de même une contradiction. Alors, Antoine, vous allez nous permettre d'explorer ce que peut être l'impact d'un éventuel choc pétrolier qui pourrait être devant nous. Vous êtes aussi professeur d'économie, c'est à Paris 1. Vous êtes aussi au centre d'économie de la Sorbonne et également à l'école d'économie de Paris et membre du CAE. Donc, pouvez-vous nous faire part de vos réflexions sur l'impact parce que on a pu dire, à la suite de cette adaptation des agents économiques face à la contrainte pétrolière, que finalement l'impact, la récession récente, qui a été la pire depuis les années 30, est due à des raisons financières. Et finalement, on peut soutenir qu'on a pas mal résisté. Donc, est-ce que l'impact est finalement plus faible qu'on le croyait, ou est-ce que vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas sous-estimer le risque ?
Voilà, on va essayer d'avoir une vue un peu raisonnable de ces questions. Donc, faut-il encore craindre les chocs pétroliers, c'est ce que vient de dire M. Le Fournier. Si on repense aux deux premiers chocs pétroliers...
Le micro.
Si on repense aux deux premiers chocs pétroliers, on sait bien que le prix avait alors été multiplié par 3. Ça a eu un impact, je rappelle, un ou deux chiffres. On fait passer la croissance, le premier, de 6,6% en 73 à moins 1%, un effet très massif, et de 3,5% à 1% lors du second choc. Et comme chacun sait, ils ont lancé un processus qui a duré au moins 10 ans d'inflation et de hausse du chômage. Et face à ça, la hausse de janvier 2004 à juillet 2008, où le prix a été multiplié par 4,5, encore plus, on a l'impression qu'elle est passée sans grand dommage. En tout cas, en France, elle a peu affecté la croissance, semble-t-il, et elle n'a pas non plus freiné la réduction du chômage. On était dans une période d'amélioration et qui s'est poursuivie. Avant, brusquement, bien sûr, avant que la crise financière ne se manifeste et là déclenche la crise réelle. Alors, les raisons, il y en a qui sont évidentes, il y en a qui sont plus lointaines. La première, c'est, on l'a déjà évoqué, la diminution de l'intensité pétrolière. Le chiffre peut être présenté de manière parlante. Aujourd'hui, il nous faut un tiers de baril pour produire 1000 euros de PIB. Eh bien, en 73, il en fallait trois fois plus si on parle des mêmes euros, des euros d'aujourd'hui, bien sûr, hein, tout ça en chiffres réels. Une autre raison qu'a évoqué Bernardo, c'est l'effet protecteur du change et de la fiscalité. Donc, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on veut analyser. Donc voilà, si on peut dire notre prévision, c'est une prévision tout à fait symbolique, hein, c'est pas aller à regarder comme ça dans son esprit. On s'attend effectivement à un trend de croissance et des fluctuations autour. Bon, mais on parie effectivement sur une hausse du prix du pétrole, on prend un risque après tout. Monsieur Le Fournier a rappelé ceux qui s'attendaient à un dollar à 5%, si nous on dit à un pétrole à 5 dollars, si nous on dit qu'on s'attend à un pétrole à 80-90, bon, peut-être qu'on se trompera, peut-être qu'on va avoir devant nous 10 années à 30 euros, mais on aura au moins le réconfort de se dire qu'on a été du côté prudent, hein, c'est-à-dire qu'on gagne certainement à se préparer à un pétrole élevé, même si ce n'est pas tout à fait sûr pour beaucoup de raisons. Alors, je vais si on regarde les choses en macroéconomie, je vais d'abord revenir à des choses très, très qui datent, hein, l'analyse en termes de choc d'offres et de choc de demande. Tous ceux qui, par exemple, ont eu l'occasion d'enseigner l'économie savent bien que c'est comme ça qu'on a analysé les premiers chocs, mais je vais mettre un peu des accents sur certaines choses, et d'abord sur le choc d'offres, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une hausse du prix du pétrole? C'est quelque chose qui touche au coût d'abord les entreprises. Hein, que vont faire les entreprises face à un pétrole plus cher? Elles sont incitées, et c'est la même chose. Soit, en courbe d'offres, on la représente comme on fait dans les cours d'économie, se déplace dans le mauvais sens. Hein, donc, soit ils diminuent leur activité parce que la production est devenue moins rentable, même certaines entreprises vont peut-être disparaître. Ou, évidemment, la solution est d'augmenter les prix. Et dans ce cas-là, on pense au risque de l'inflation qui se manifeste. Et ben, le partage entre les deux, hein, baisse de l'activité et hausse des prix, va beaucoup être déterminé par la demande. Bien sûr, baisse de l'activité et hausse des prix, ben, ça faisait penser à l'époque à la stagflation. Ça, c'est le caractère typique d'un choc pétrolier. C'est quelque chose qui pousse à la fois au chômage et à l'inflation. Alors, c'est aussi un choc de demande négatif, ça c'est ce qu'on disait beaucoup à l'époque, ça c'est la conséquence immédiate de la facture pétrolière, hein. On transfère beaucoup d'argent, disons, de la France vers l'OPEP, ça diminue la demande de biens, la demande générale de biens et services en France, ça augmente celle de l'OPEP, mais moins, c'est ce qu'on pensait à l'époque, que finalement, donc l'effet total était négatif sur la demande. J'indique quoique, parce qu'on va voir qu'aujourd'hui la situation est un petit peu plus complexe. Alors si on essaie, on a pas mal réfléchi à ça, à essayer de réfléchir un peu à l'équilibre financier mondial, à la manière dont il s'installe aujourd'hui et à l'impact qu'a le prix du pétrole là-dessus. Parce que bien sûr, savoir ce qui arrive à l'activité mondiale, c'est des phénomènes réels, mais qui ne sont pas du tout indépendants d'un équilibrage financier. Hein. Donc qu'est-ce que va faire l'OPEP quand le pétrole est élevé? D'abord, première remarque, c'est qu'elle consomme et elle investit beaucoup plus chez elle qu'elle le faisait avant. Hein. On est très loin du phénomène pétrodollar d'il y a 20 ans, où elle replaçait instantanément sur les marchés financiers internationaux une bonne partie de la facture pétrolière. Maintenant, elle le fait moins. Donc, elle va nous acheter plus qu'avant. La question est à qui va-t-elle acheter? Et c'est quelque chose sur lequel on viendra dans les préconisations. Est-ce qu'elle achète à la France? Est-ce que nous sommes armés pour vendre à l'OPEP, lui permettre de consommer et d'investir? Mais également, elle va intervenir assez massivement quand même sur les marchés financiers, où d'ailleurs directement, hein, les pays de l'OPEP commencent à avoir une vue beaucoup plus complexe de l'attitude qu'ils doivent avoir vis-à-vis de leurs réserves. En fait, c'est d'une certaine façon vis-à-vis de la rente de rareté dont a parlé Lionel Rago. Maintenant, ils n'ont plus une courte vue. Les voit régulièrement dire qu'il faut se préoccuper des générations suivantes. Donc, on rejoint aussi l'idée de spéculation. D'une certaine façon, ils spéculent. Ils spéculent, c'est eux qui peuvent le plus spéculer sur la hausse du pétrole. Il suffit pour ça qu'ils ralentissent un petit peu l'extraction. Et ils commencent vraiment à avoir des comportements plus complexes. Ils peuvent aussi investir dans les pays développés, bien sûr. Ils commencent tous à avoir des fonds souverains qui sont actifs. Et bon, l'exemple le plus typique de ce nouveau type de comportement très, très dynamique, très financier finalement, au sens d'avoir des comportements un peu à moyen et long terme, là, c'est pas dans l'OPEP qu'on le trouve, c'est en Norvège. Hein. En Norvège, il y a un fonds de pension qui a été créé et qui est alimenté par la rente pétrolière et qui voit très loin, voilà, très explicitement, en disant il faut que nous gardions ça pour nos prochaines générations. Donc l'OPEP pèse beaucoup et à travers elle le pétrole sur l'équilibre financier mondial et ça rejaillit à travers l'épargne, l'investissement sur la demande. Ça joue aussi sur le taux de change, je ne vais pas en parler trop, on a aussi essayé de synthétiser un peu cette question-là. C'était, ça lui apparaissait dans les premiers, enfin dans certains des graphiques qu'a présenté Philippe Chalmin, la conjonction entre l'appréciation de l'euro, enfin en disant la dépréciation du dollar, et la hausse du prix du pétrole. Mais les liens entre le change, hein, notamment dollar, euro, et le prix du pétrole, ils sont ambigus, ils ont changé, ils changent à la fois dans la corrélation, est-elle positive ou est-elle négative, hein, en fait, dans les années récentes, on voit bien que quand la dépréciation du dollar a accompagné la hausse du prix du pétrole, et on peut le comprendre, mais dans les périodes d'avant, ça semblait jouer vraiment à l'envers. Et donc ça change dans le type de corrélation, et ça change aussi dans la causalité, parce que la causalité antérieure, la causalité récente, il y a des tests qui sont faits, des tests de causalité, semblent montrer que ça va du champ vers le prix du pétrole, et tandis que dans la période antérieure, c'était plutôt le contraire, et là la raison était plus probablement financière, et voilà, donc la question est tenue en fait au placement fait, est-ce qu'on place en euros, est-ce qu'on place en dollars, les excédents pétroliers. Donc finalement tout ça c'est quelque chose d'évidemment complexe, sur lequel il est malheureusement difficile de faire des prédictions, mais on sent bien que ça va peser beaucoup sur les évolutions, non seulement du pétrole, mais aussi c'est la traduction de tous les déséquilibres mondiaux de l'épargne et de l'investissement qui sont là, et encore pour pas mal de temps. Alors, maintenant, la hausse du prix du pétrole, ça a aussi un impact négatif sur le marché du travail, c'est-à-dire à la fois sur l'emploi et les salaires, en partie pour les raisons qu'on vient de dire, si c'est mauvais pour l'activité, c'est mauvais pour le travail, mais il y a des raisons, finalement, pour que ça touche plus le travail et les salaires que les profits, aussi bien à court terme qu'à long terme. Donc, c'est évidemment pas des bonnes nouvelles pour les travailleurs. Ça réduit la demande de travail, comme je viens de le dire, parce que l'activité se réduit. Alors on peut regarder plus ou moins selon les complémentarités ou les substitutions entre l'énergie et le travail. On peut avoir là un tout petit peu d'optimisme si le capital est plus complémentaire et travaille plus substituable à l'énergie. Et un certain nombre de données semblent dire ça, auquel cas c'est plutôt bon quand le prix de l'énergie augmente, ça sera un petit peu moins mauvais pour le travail. Et un autre élément, c'est que ces comportements de marge des entreprises, il y a des raisons de penser que quand on est en basse conjoncture, malheureusement pour les travailleurs, les marges augmentent. Parce que c'est pas le moment de se faire beaucoup de concurrence entre les entreprises, tout se passe comme s'il y avait moins de concurrence, parce qu'on a moins à gagner dans une période d'activité un peu faible, on a moins à gagner à essayer de faire concurrence aux autres et à freiner les prix. Et donc finalement, ça pèse aussi sur les salaires réels. Donc il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les salaires réels. La troisième...
Est-ce qu'il n'y a pas un facteur là qui est la désindexation toujours ?
Oui, je vais y venir. Plutôt, là je regarde encore peut-être l'impact instantané de manière un petit peu statique, comme nous disons. Le troisième élément, c'est que le pétrole, jusqu'à présent j'ai parlé surtout de la matière première pour les entreprises, mais c'est aussi quelque chose qui est consommé directement par les ménages, ça joue un rôle important dans leur pouvoir d'achat, et donc ils y perdent de ce point de vue-là. Et finalement, si on y réfléchit, ça réduit l'offre de travail, parce qu'il y a un peu un effet comme une taxe. Ça dépend quel est l'effet sur le salaire réel, ça dépend duquel on parle. Le salaire pour les entreprises, il augmente, et celui touché par les ménages, il baisse, parce que le prix du pétrole qu'ils consomment intervient comme une taxe entre les deux. Donc, voilà. La conclusion, vous verrez tout à l'heure, c'est que ça, c'est difficilement évitable. Et donc, on ne peut pas prendre de fausses solutions qu'on a prises à un certain moment, de dire il faut que, après tout, l'État peut prendre sa part de l'ajustement, bien sûr. Hein, qui va payer la facture pétrolière? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les travailleurs? Est-ce que c'est l'État? Bon, l'État, ça n'est pas une bonne solution, ça ne peut être que temporaire, et il y a pas mal de raisons pour dire que ça va finalement être difficile d'éviter que ça soit mauvais pour les travailleurs. Alors, je pense à mon voisin là qui va dire il y a des bons côtés pour l'emploi, on va en parler bien sûr, que un pétrole cher, ça peut pousser à une croissance plus verte et créer des nouveaux types d'emplois, mais quand même, si on regarde les choses globalement, c'est un peu paradoxal d'essayer de dire finalement ça serait bon, c'est quand même un choc d'offre négatif dont il va falloir prendre la mesure. Alors, pour le mesurer, là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est quand même donc, que ça réduit la valeur ajoutée de l'économie française, bien sûr, et donc sa capacité à distribuer des richesses à ses travailleurs et à ses capitalistes. Et les autres ont fait long, non? Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a essayé de faire des chiffres, on a trouvé un peu une discordance relative entre les modèles appliqués, faits par exemple à l'INSEE, qui aboutissent à des effets qui ne sont pas négligeables. Par exemple, ils constatent que la hausse observée entre 2002 et 2007, sont des frais propres, ça serait moins 1% finalement sur le niveau du PIB, ce qui est quand même beaucoup, ce qui est quand même pas négligeable et pas énormément, mais disons que nous, on pense que c'est plus. Hein. Et il y a des raisons techniques dont je ne vais pas en parler. On croit que la comptabilité nationale, c'est simple. En fait, on a eu un débat et une discussion pour savoir comment on déflate le PIB, et la conclusion, c'est que le PIB, tel qu'il est calculé, n'est probablement pas le meilleur indicateur pour mesurer l'effet d'un choc pétrolier, et ça, par définition, ça sous-estime un peu l'effet. Donc, la conclusion, c'est que l'effet est quand même important. Alors, ensuite, l'ajustement macroéconomique, je pense qu'on a essayé de le prendre, non pas de manière, comment dire, chronologique, et ça relance l'inflation, et après les salaires, etc., mais de manière un petit peu synthétique. Le thème, c'est il faut que les salaires s'ajustent, ils vont s'ajuster. Alors, le bon côté, c'est ce que vous disiez, ils vont s'ajuster, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils s'ajustent plus facilement qu'avant, parce qu'il y a la désindexation, pas tellement la désindexation sur les prix, mais les salaires réagissent à la conjoncture, réagissent à la situation. Et puis, il y a également des progrès de politique monétaire, ça a été beaucoup dit. Enfin, c'est très simple, c'est que, vous le savez sans doute, maintenant, la politique monétaire, c'est les taux d'intérêt, c'est le contrôle selon ce qu'on appelle des règles Taylor, et c'est des choses plus souples qui tiennent à la fois compte, pas seulement de l'inflation, c'est pas monétariste au sens de mettre tout l'accent sur l'inflation, on tient aussi compte de la production et on arrive à quelque chose qui marche beaucoup mieux. Enfin, en quelques mots, donc des effets relativement importants sur l'ensemble, qu'il va falloir gérer, et puis des effets sectoriels qui, eux, sont très différenciés. Alors ça, on n'a pas trouvé énormément de données très précises, donc on retombe sur ce qu'on dit partout. Tout le monde pense au transport, notamment routier, tout le monde pense à la pêche, qui sont des secteurs qui souffrent beaucoup de la hausse du prix du pétrole et de l'industrie chimique. Il y a des secteurs qui sont influencés, non pas au niveau de leurs inputs, mais au niveau de leurs outputs, de leur demande, l'automobile. Et puis quelque chose qui est important, qui sont les ménages. Les ménages ne sont pas tous atteints de la même façon. Et il y a un phénomène un peu à rebours, qui font que plus on est pauvre et plus on est rural, plus on consomme relativement de produits pétroliers. Bien sûr, ils ne sont pas plus riches, ils en consomment moins, mais en proportion de leur budget, ils en consomment beaucoup, et donc ils sont très sensibles à ça. Et donc il y a un risque de pauvreté énergétique face à une hausse du prix de l'énergie, alors que c'est évidemment quelque chose dont on a beaucoup de mal à se passer. Et ça, à la fois, on en reviendra un peu dans les préconisations, et également, comme vous le savez, dans les débats sur la taxe carbone, ça a été présent.
Merci beaucoup. Donc, pour ce panorama,